Joël Perrichon est notre invité.
Bonjour Philippe.
Depuis, voilà, on se connaît maintenant depuis quelques semaines. On se retrouve ici, bien sûr, ce sont les invités de Martine et Marinette.
Bonjour à tous.
La chronique s'appelle « D'ici et d'ailleurs ». Ça sera de très belles rencontres qu'on aura tout au long de cette saison de radio. Joël Perrichon, vous êtes un photographe. C'est à travers au moins cet art-là qu'on vous rencontre. Oui. Vous faites de très belles photos sur l'eau, à la fois l'eau liquide et l'eau solide. Mmh. Vous faites des expositions. Tout le mois d'août, vous avez exposé dans un office de tourisme dans la vallée de Batte-sur-Guère.
C'est bien ça.
Voilà, à côté de Lourdes. Vallée de Batte-sur-Guère que connaissent bien Martine et Marinette,
oui,
puisqu'elles habitent là-bas.
Elles y habitent.
Dans le village d'Aussin, et non pas Aussin, parce que c'est un petit peu compliqué. Il y a Aussin, avec l'aéroport,
oui,
et Aussin, dans la vallée de Batte-sur-Guère. Voilà. Donc, vous avez exposé pendant tout le mois d'août.
Tout l'été.
Juillet-août.
Voilà, donc dans cet office de tourisme.
Voilà. Ouais. Et vous avez même demandé à Martine de compléter votre exposition photo par quelques pièces en bois.
Pièces en bois tournées. Ouais. Et je me suis dit, Joël ne m'avait pas dit, il fait quelque chose en rapport avec l'eau.
Oui.
Mais je me suis dit, ça serait drôlement sympa de faire quelque chose en rapport avec l'eau.
Voilà. Alors, quels sont ces objets en bois que vous avez apportés, Martine?
Alors, écoute, j'ai fait des gouttes d'eau sous forme de porte-clés.
En bois.
Gouttes d'eau aussi pour brûler l'encens. Un galet dans la rivière brûleur d'encens. J'ai pris un tronc d'arbre sur lequel j'ai fait couler de la résine bleue, donc ça fait comme une cascade. Enfin, voilà. Un miroir, évidemment, ça a fait la glace. Tiens, voilà.
On dirait un...
Un pendule. C'est ça. C'est entre le pendule, mais on cherche l'eau avec le pendule, vous savez, Philippe.
Eh oui, c'est vrai.
Et voilà, donc tout est lié.
Donc voilà, c'était sympathique de faire quelque chose comme ça, un hygromètre, enfin voilà.
Et donc cette exposition, eh bien, elle était visible tout cet été, donc
jusqu'à fin août.
Vous serez à septembre du côté de Gavarnie, puisque vous exposez à la Maison du Parc National, donc à Gavarnie.
Des Pyrénées, oui. Tout le mois d'août et le mois de septembre.
Voilà.
Jusqu'au 30 septembre, oui.
Donc vous êtes à Gavarnie pour ce mois de septembre. Il vous reste encore quelques jours pour aller voir votre exposition. Et puis un petit peu plus tard, vous serez du côté de Bayonne. Voilà.
Oui, la première semaine d'octobre, je serai dans une très jolie galerie associative qui s'appelle la Galerie des Corsaires à Bayonne.
Mmh. On parle de l'eau, puisque c'est le thème de vos photos, l'eau en mouvement, lorsqu'elle est bien sûr à l'état liquide, mais des fois aussi, il doit y avoir des étangs ou des... Non, l'eau à l'état liquide, mais qui ne bouge pas.
Alors,
est-ce qu'il vous intéresse ou moins ?
Beaucoup moins, parce que c'est vraiment le mouvement de l'eau qui crée les motifs. Le mouvement de l'eau en association avec la matière qui se trouve dans l'eau, donc que ce soit de la matière minérale, des cailloux, que ce soit de la matière végétale, parce que le mouvement de l'eau va venir déformer cette matière. Donc on va avoir des taches de couleur, d'où le sentiment un peu d'un tableau impressionniste, parce que il n'y a pas de trait précis, comme dans la peinture réaliste, mais c'est plutôt des taches, ce qui fait que le résultat donne un tableau non figuratif, mais créé par la nature, par l'eau.
Alors la nature, on va en parler, c'est une cause, bien sûr, Martine et Marinette, qui vous tient à cœur, puisque quand on s'était rencontrés pour la chronique, le thème c'était bien manger mais remercier, c'est-à-dire aussi, et vous nous avez quand même donner pas mal d'astuces pour dire mangez des fruits de saison. N'achetez pas des légumes ou des fruits qui ne sont pas de saison parce qu'ils viennent d'ici ou ailleurs, là, très loin. Certains n'ont pas, malheureusement, les mêmes règles qu'en France, en ce qui concerne les pesticides, en ce qui concerne la conservation. Et donc, il vaut mieux quand même consommer des fruits de saison.
Oui,
de saison et plus locaux aussi.
Oui.
Des produits locaux.
Bien sûr, c'est important.
On avait parlé effectivement des fruits, mais on avait parlé effectivement de toute cette nature qui est quand même en danger. dont l'eau fait partie, effectivement, mais la nature sous toutes ses formes, les formes animales, etc. Donc, on avait longuement évoqué ça. Et effectivement, à l'époque, on donnait des recettes pour mieux manger, parce qu'il y a quand même l'histoire du petit colibri qu'on peut reprendre chacun à son propre niveau. Même si on en parlait en aparté tout à l'heure, l'histoire du colibri est très limitée. C'est une évidence, parce qu'il y a le monde de la finance derrière. Enfin, il y a quelque chose qui nous dépasse un peu.
Mais il n'empêche que chacun, là où il est, a déjà...
Oui, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire.
Bien sûr.
Ce petit colibri qui essayait d'éteindre un feu de forêt avec son petit bec et ses petites gouttes d'eau. Et effectivement, ça paraît aberrant, mais si des millions de colibris l'avaient fait, peut-être qu'on aurait pu éteindre cet incendie. Mais il fait comme il dit, il a fait sa part.
Il faut le voir dans la prise de conscience, qu'on peut tout savoir. Après, il y a nos gouvernants, et ça, c'est un autre débat.
Quel regard vous portez aujourd'hui sur, vous qui êtes vraiment sensible à cette cause, l'eau, sans l'eau, pas de vie possible? C'est, je crois, le sésame absolu pour qu'il y ait de la vie sur n'importe quelle planète. D'abord, la seule chose qu'on regarde, c'est savoir s'il y a de l'eau. Oui. S'il n'y a pas d'eau, c'est pas la peine. La vie n'est absolument impossible. Donc l'eau, c'est vraiment cette molécule, hydrogène et oxygène. L'eau sans eau.
On est constitué de ça.
Et on est constitué de ça. Hein. Nous, je crois que l'homme est à 70%.
C'est ça.
On est constitué d'eau. Donc l'eau, c'est la matière première. Et cette eau... Malheureusement, on en fait un petit peu n'importe quoi. Quand on voit aujourd'hui des reportages sur les fonds de nos océans, surtout de nos mers, la mer Méditerranée, où je crois que depuis peu, il y a eu une sorte de sous-marin qui a pris des photos des fonds. Mais c'est ahurissant.
C'est une poubelle.
Oui, c'est une poubelle. Oui. Quel regard vous portez là-dessus? Vous parliez d'une expérience avec des singes. Vous disiez que ça s'appelait Le centième singe.
Le centième singe, oui. Alors, le regard que je porte, c'est un regard attristé. Voilà. Moi, chaque fois que je vois les dégradations des rivières, des océans, je suis triste. Principalement triste. Parfois, je suis en colère, mais sinon, je suis principalement triste. Qu'on puisse abîmer autant de beauté. Que l'être humain a de telles possibilités, un tel potentiel, de telles capacités pour un tel gâchis.
C'est ça.
C'est incompréhensible. Alors l'histoire du centième singe, c'est une expérience faite par des scientifiques dans les années 50. Ils observaient une colonie de singes dans le sud-est asiatique. Et ils observaient leur mode de vie, tout simplement. Et puis, ils leur ont jeté des pommes de terre un jour. Ils les avaient en trop, sans doute. Je ne sais plus très bien pour quelles raisons. Ils ont commencé à leur donner des pommes de terre. Et au bout d'un moment, un singe s'est mis à laver sa pomme de terre dans l'eau de mer. Donc, ce faisant, d'une part, il l'a débarrassé du sable. Donc, c'était quand même plus agréable à manger sans sable. Et d'autre part, l'eau de mer donnait un goût salé à la pomme de terre. Hein, donc, il faisait d'une pierre deux coups. Et il a fallu plusieurs jours avant qu'un deuxième singe imite ce premier, se dise, tiens, il doit y avoir un intérêt à laver sa pomme de terre dans l'eau. Et petit à petit, avec le temps, d'autres singes se sont mis à adopter ce comportement. Mais pas la majorité de la colonie.
Oui, l'autre majorité continuait à consommer telle que...
La pomme de terre...
À l'état brut, quoi, telle qu'on l'aurait...
Pleine de sable,
de terre,
voilà. Et à un moment donné, quand le centième singe de la colonie a adopté ce comportement, ce que les scientifiques ont observé, c'est que là, la majorité restante a, en même temps, adopté ce nouveau comportement. Et non seulement ça... Une colonie de singes qui se trouvait sur une île voisine a adopté aussi ce comportement de laver les pommes de terre dans l'eau de mer avant de la manger.
Donc ça laisse quelque part un espoir. Certains, ceux qui protègent la nature, on voit quand même qu'il y a des améliorations. La France a adopté quand même pas mal de mesures, mais elle est petite, la France, au niveau mondial. C'est une goutte d'eau dans ce grand pays.
Et les mesures sont petites quand même.
Les mesures sont petites, oui. Mais elles ont l'avantage d'interdire les sacs plastiques dans les supermarchés.
Oui.
Pas mal de mesures ont été prises quand même.
Oui.
Qui ne sont pas prises dans d'autres pays, juste à côté de chez nous.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une question de conscience, d'importance qu'on accorde aux choses. Et ça, c'est effectivement individuel. Ça rejoint l'histoire du colibri dont on parlait la semaine dernière. Je ne sais pas ce que ça représente. J'observe que dans certains pays, comme l'Islande, par exemple, il y a des choses très, très fortes qui ont été faites. Des banquiers ont été mis en prison, le gouvernement a changé. La population, en fait, a pris les choses en main, chose qu'on n'imaginerait pas en France, par exemple. Par contre, dans d'autres pays, c'est mille fois pire qu'en France. Il y a des choses terribles qui se passent, notamment en ce moment au Brésil avec la déforestation intensive ou en Indonésie. Ça. Donc, il y a tout et son contraire. Il y a vraiment des choses très, très opposées qui se passent. Il y a une accélération dans la destruction, dans l'avidité humaine. Et il y a aussi une accélération dans la recherche d'alternatives et dans les changements.
La balance
on attend le centième singe pour basculer de l'autre côté et vraiment prendre conscience.
D'un côté ou de l'autre, parce que le problème, il est là. Moi, je ne suis pas entièrement convaincue qu'on bascule dans le bon sens.
On s'aperçoit qu'il y a des dérèglements climatiques avec de plus en plus des périodes très chaudes, de périodes froides. On est passé, là, cet été, on a eu des records de température. Et en 48 heures, on est passé de 41, 42 degrés à 17, 18 degrés 48 heures après. Je crois que nos anciens n'avaient jamais connu ça. Et ça inquiète, on en est tous conscients, mais on n'a pas l'impression de...
Mais personne ne veut lâcher quand même son petit
confort.
Oui. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand même, c'est quand on le réalise, c'est quand même fou. On parle de l'eau, on parle de la nourriture, etc. Nous, on boit à notre soif, on mange plus qu'il n'en faut, qu'il n'en faut, au détriment de l'autre partie du monde qui meurt. Et ça, quand même, on est un peu tombé sur la tête, quoi.
C'est compliqué, effectivement, nous, d'avoir notre confort qui disparaît. Il y a un siècle, l'électricité venait juste d'arriver, l'eau courante n'était pas dans chaque maison. Ils vivaient complètement différemment et pourtant ils vivaient. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on serait, à part d'y être obligé, je pense que ce serait compliqué de faire marche arrière.
Alors, je ne crois pas qu'il s'agisse de faire marche arrière sur ces besoins de base. Je pense qu'on ne peut même pas parler de confort, c'est des besoins de base. Et des tas de solutions alternatives ont été trouvées pour qu'il y ait de l'éclairage, par exemple, en pleine brousse ou en plein désert en Inde, là où
avec
il n'y a pas d'électricité,
solaires,
des panneaux solaires. Les technologies existent, il suffit qu'il y ait la volonté. L'eau, c'est plus difficile, c'est un besoin fondamental. Mais je suis sûre que si on investissait l'énergie nécessaire, on trouverait les solutions, puisque quand on investit l'énergie dans autre chose, on trouve. Je pense que il s'agit pas d'être privé de ça, mais plutôt de permettre aux autres populations qui habitent la même planète que nous d'y avoir accès. Ce qui semble plus difficile pour les générations actuelles, c'est de se passer de tous les gadgets électroniques. Parce que tout ce qu'il y a dans nos smartphones, nos tablettes, les ordinateurs, on en change beaucoup. C'est plus revenir à une fabrication plus solide, d'objets plus solides, et qu'on ne va pas changer chaque année. Je pense que c'est ça le plus difficile. C'est déshabituer les gens à consommer, jeter, Même pour les vêtements, j'entendais, sais, maintenant, t'es obligé de renouveler ta garde-robe chaque année, parce que le coton s'use tellement vite, c'est de tellement mauvaise qualité. Alors qu'il y a 20 ans, on pouvait acheter une robe ou un t-shirt, un gilet et le garder 10 ans.
Bien sûr.
C'est plutôt à ce genre de choses qu'il faudrait revenir pour que les populations qui non seulement n'ont pas de confort, mais n'ont pas la base puissent accéder au moins à la satisfaction des besoins vitaux. Évidemment. Que sont l'eau, la nourriture, toit, la protection contre les éléments. Voilà quoi.
C'est ça doit pour les gens qui nous écoutent. Hein, c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est peine perdue, qu'on n'y arrivera pas et qu'on va droit dans le mur, mais que c'est pas forcément notre génération qui pâtira, voire peut-être même pas celle de nos enfants, mais peut-être, mais on sera plus là. On a l'impression. C'est un peu comme dans les films humoristiques, fait penser aux bronzés, les bronzés font du ski, où on voit les gens jeter la nourriture ou les déchets dans la neige. Et la personne dit, mais c'est dégueulasse. Oui, mais c'est pas grave. Quand il n'y aura plus de neige, on va le voir. Oui, mais quand il n'y aura plus de neige, on n'est pas là, on est à la mer.
C'est ça.
Et ça résume, bon, c'est humoristique, c'est un trait humoristique, mais ça résume bien la neige recouvre les déchets, donc il n'y a pas de souci. Puis quand ça va fondre, effectivement, ça se verra, mais eux ne seront pas là, ils seront ailleurs. On a l'impression qu'on fait un petit peu ça, on ferme les yeux, c'est-à-dire on laisse aux autres, nous on aura bien vécu, et puis les autres.
Tout à fait, il y a une forme de déni. C'est un mécanisme de protection, un mécanisme de défense. Mais qui est très répandu, puisqu'il y a beaucoup de climato-sceptiques, on les appelle.
C'est ça. Et il y en a de plus en plus.
Voilà, parce que le fait de fermer les yeux permet de continuer à vivre comme on a tout vécu, à consommer et à ne rien modifier à nos habitudes de vie, à garder un smartphone pendant 5 ans au lieu de le changer chaque année, et des choses comme ça. Une fois qu'on a ouvert les yeux. On ne peut plus, quoi.
Alors, on ouvre les yeux à travers souvent des structures associatives. On parlait des colibris, mais vous avez fait aussi l'expérience d'une très belle initiative aussi qui s'appelle du flocon à la vague.
Oui.
C'est avec la famille Crépel, qui est partie du concept de parler de cette goutte d'eau qui est dans le ciel, qui va se transformer, si elle est très haute, en flocon de neige. Ce flocon de neige va tomber, il va être sur nos sommets, puis avec la fonte des neiges, va devenir de l'eau, puis il va couler dans les petits ruisseaux, la rivière, pour finir du côté l'Atlantique.
Oui,
donc il y a tout ce parcours, depuis le nuage, à travers les massifs, les ruisseaux, les rivières et l'Atlantique. Donc ils partent, donc ils font des ateliers au niveau des chaînes, pyrénéennes. Ensuite, ils font aussi tout ce parcours, le gave de Pau, les lacs, les ruisseaux. Et puis, ils arrivent du côté de chez Vicente Lizarazu, qui était un des parrains de cette belle initiative, qui est donc du Pays Basque. Et il parle de l'Atlantique. Donc, cette goutte d'eau, elle a fait du parcours. Elle était dans le ciel, elle est tombée en neige, elle a fondu, elle est devenue de l'eau. L'eau est partie dans des petites... des petits ruisseaux qui sont devenus des rivières, et pour finir, dans l'Atlantique.
Et ils ont trouvé une façon poétique d'en parler. Mmh. Voilà. Du flocon à la vague. Mmh. C'est très imagé. On le voit, le flocon, et on voit son milieu naturel, c'est-à-dire la montagne, le sommet que vous avez décrit, et à la vague. Et entre les deux, on imagine effectivement tout ce parcours. C'est très visuel et je pense que c'est comme ça que les gens sont susceptibles d'être le plus touchés. C'est par des choses qu'ils peuvent appréhender, voir, qui vont générer de l'émotion plutôt que des choses plus... plus chiffrés, des faits, et qu'on a plus de mal à appréhender.
C'est ce qui est intéressant justement dans ton expo.
C'est ça.
Je pense que c'est ce que tu allais dire, Marinette. Parce que la beauté de tes photos fait prendre conscience de l'eau.
Va toucher les personnes.
Va toucher les personnes.
C'est ça.
Cette émotion, justement, va passer.
Ah, oui.
Et alors, bien sûr qu'il y a le versant pédagogique, même répressif s'il faut, par certains côtés, etc. Mais la beauté, ça, je pense que c'est quelque chose qui va droit au cœur de l'homme, quoi.
C'est ça, ça va au cœur de l'humain, oui.
Allez, Joël Perrichon, on se retrouve une dernière fois la semaine prochaine pour continuer à parler avec vous. Vous êtes photographe et vous avez créé un très bel... très beau site internet où on peut aller voir quelques extraits, hein, quelques photos que vous avez pris. Ça s'appelle Appassionato, où vous tapez plus précisément Joël Perrichon sur un moteur de recherche.
Et avec un R, hein, Perrichon.
Oui. Avec un R, oui, pas deux. Un Perrichon, P-E-R-I-C-H-O-N. Et vous verrez, vous tomberez sur le site internet. Il y a un numéro de téléphone, peut-être qu'on peut le laisser. C'est un 06 17 82 01 03. 06 17 82 01 03. Et vous avez une structure associative donc, qui s'appelle Assionato, hein, qui regroupe un peu vos activités.
Voilà, c'est ça, oui. Hmm.
Très bien. Merci beaucoup, Joël Perrichon. On se retrouve une dernière fois la semaine prochaine. On parle encore de votre passion, parce que vous n'avez pas que la photographie, vous avez aussi la musique. On en parlera un petit peu aussi avec vous. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.